19h sur le 101.5 de Radio G. Ça fait plaisir de vous retrouver dans ce studio. Au programme de ce soir, des ours, de l'écologie, la fin du monde, une interview, des surprises et beaucoup plus. Attention, générique. Si ça veut bien parler.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Eh bien, tout ce que vous allez voir, je ne sais plus parler et entendre sur le 101.5 de Radio G. Je suis vraiment encore super content de vous accueillir en cette émission, cette première émission de la saison 2021-2022, le 13 septembre 2021. C'est un peu logique. On va se retrouver tous les 15 jours pour votre dose de bande dessinée de 9e art. Comme d'habitude, par le truchement des ondes radiophoniques, on va vous propulser directement dans le cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. C'est beau micro, nous sommes ensemble pour une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. J'espère que vous êtes des habitués, c'est cool. Si vous êtes des nouveaux, c'est cool aussi. N'hésitez pas à nous retrouver sur le 101.5 de Radio G et sur le podcast n'importe quand sur radio-g.fr. Alors, je vous disais qu'on allait commencer avec des ours. Eh bien, ça va être encore comme d'habitude. C'est une première, je suis essoufflé parce que j'aime pas le masque. Mais bon, ça c'est un problème. On va commencer avec... j'ai presque que des coups de cœur. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu le temps de lire pas mal cet été. J'ai eu beaucoup de... Il faisait super beau, donc on est resté un petit peu à la maison. Et on va commencer à parler d'ours avec Cody de Jared Cullum, publié aux éditions Comics Initiative. À mon avis, c'est certainement pas comme ça qu'on prononce Jared Cullum, mais c'est pas très très grave. L'histoire, c'est celle d'une jeune fille qui s'appelle Katia, qui vit les vacances chez sa grand-mère en Alaska, ou tout à côté. Et c'est un petit peu une gamine qui n'aime pas les gens. Elle préfère passer plus de temps à lire des comics dans sa chambre que de sortir trouver des copains et des copines. Et du coup, elle a très peu de copains. Sa grand-mère lui dit écoute, sors, va te faire des copains. Et elle va tomber sur un gigantesque ours, un ours Kodiak. Alors, je veux dire que je ne connaissais pas les ours Kodiak. Vous pouvez regarder les statistiques un petit peu de ce type d'ours sur Wikipédia ou dans une encyclopédie. Ça reste des beaux bébés. Et elle tombe sur cet ours qui est blessé, affamé, coincé derrière une branche. Et elle décide de l'aider. Elle décide de tout faire pour pouvoir aider cet ours à sortir de cette branche. Donc elle va se faire aider par sa grand-mère. Et puis, contre toute attente, cet ours va se lier d'amitié avec la jeune Katia. Une amitié entre un enfant et un ours, c'est pas une amitié, on va dire, un peu banale. Mais voilà, l'été touchant à sa fin, Katia doit retourner dans la grande ville avec sa maman. Et pour le grand drame, Cody, l'ours... Kodiak, ours Cody, va tout faire pour retrouver sa copine qui est partie loin de lui. C'est un super bouquin, déjà parce que c'est super mignon, c'est une histoire hyper touchante d'une amitié un petit peu hors norme, parce que ça parle de plein de personnages, c'est des personnages qui sont un peu des parias, que ce soit à cause de certaines petites choses, des petits handicaps, ou simplement parce qu'ils préfèrent passer du temps à lire des bouquins que de rencontrer des gens. je m'identifie pas du tout à ça. Et puis aussi parce que c'est absolument fabuleux en termes de dessin. Je suis pas bon en dessin et Tony, mon cher camarade, pourra me le dire et témoigner. J'ai toujours eu du mal en fait à déterminer les techniques qui sont utilisées. Là, visiblement, c'est de l'aquarelle et c'est de toute beauté, comme dirait un personnage d'un certain film. Et c'est vraiment très très beau. Les dessins sont très ronds. Les personnages sont un petit peu caricaturaux, mais ça marche vraiment très très bien. La panel des couleurs, l'aquarelle donne une certaine chaleur, une certaine tendresse qui est vraiment très très bien. Et c'est vraiment un pur plaisir que de découvrir cet album et de le lire. Comme beaucoup d'albums, malheureusement, une fois qu'on l'a fini, on trouve qu'il était beaucoup trop court. C'est le problème de tous les bons albums. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à lire. Il fait quand même près de 190 pages. Et c'est juste que c'est bien raconté, c'est super beau. Moi, j'aimerais bien, c'est qu'on retrouve encore une autre fois Cody et Katia dans d'autres aventures, mais je sais pas si ça se fera. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, je vais suivre Jared Cullum parce que c'est vraiment, vraiment super ce qu'il fait et c'était une pure découverte. Je leur donne les infos, c'est Cody de Jared Cullum et c'est aux éditions Comics Initiative. Ça va, je suis pas mort de plus être capable de respirer. On enchaîne avec un autre coup de cœur. J'ai décidément fait plein de coups de cœur cet été, je vous l'ai dit. Hein. Là, c'est encore un coup de cœur jeunesse. Ça s'appelle Snapdragon. C'est de Kat Leigh. Je suis pas sûr encore de la façon dont ça se prononce. C'est aux éditions Kinaï. J'en ai beaucoup parlé des éditions Kinaï parce que vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est du comics. Mais c'est pas du comics de super-héros, c'est de la BD américaine principalement. Et c'est vraiment souvent assez sympa, assez innovant. Souvent ça tire un peu vers le côté cartoon, un peu fast-paced, les dessins animés à la Bob l'éponge, un peu speed. Mais là on est sur un bouquin un petit peu plus posé, un peu plus fun. Et c'est vraiment top. Donc là, de quoi ça parle? Ça parle de Snapdragon, surnommé Snap. Une jeune fille, oui, c'est Snapdragon, c'est le nom d'une plante, donc elle s'appelle, comme nous, on pourrait appeler nos gamins Rose ou Garance, hein, pourquoi pas. Et à la recherche de son chien, elle va se retrouver face à la sorcière. Il y a une sorcière dans la ville qui est toujours là. Et cette sorcière, elle est... elle fait peur à tout le monde parce que les sorcières, ça a jamais une bonne réputation. Et en fait, Snap va se rendre compte que cette sorcière, Jax, c'est seulement, comme le dit le texte derrière, une vieille femme qui porte des crocs. Une vieille femme qui, pour gagner sa vie, ramasse les animaux écrasés sur l'autoroute un petit peu plus loin et se débrouille pour refaire les squelettes de ces petits animaux et les vendre sur Internet. Donc on est bien loin en fait de la vieille dame qui fait flipper et qui maraboute les gens parce que c'est pas du tout ça et c'est vraiment super sympa. Pourquoi cet album il est encore plus sympa? C'est parce que Snap va se lier d'amitié avec Jax et elle va découvrir à travers cette vieille femme non seulement la capacité qu'elle a à se faire des amis, elle est un petit peu comme Katia hein, de Cody, elle a du mal à se faire des amis et elle va s'ouvrir un petit peu plus aux autres, à leurs histoires et à découvrir un petit peu ce qu'ils ont à raconter. Et elle va se lier d'amitié avec un petit garçon des voisins qui va lui aussi se découvrir. C'est un ouvrage qui parle beaucoup des gens, qui parle de rencontres, mais sans vraiment appuyer, forcer le trait. Il y a des enfants, le voisin va découvrir qu'il n'est peut-être pas tout à fait du genre qu'il est. Jax, on va se rendre compte qu'elle a vécu une histoire d'amour il y a ça très longtemps. Et je vous laisserai la découvrir, parce que je ne vais pas vous raconter. Et c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien présent. Il y a très peu de personnages masculins. Hein. Les seuls personnages masculins, il y en a, c'est le petit garçon. Et un antagoniste qui n'est pas vraiment super sympa, mais vous découvrez plutôt vers la fin. Et ça marche, ça matche bien. Donc c'est vraiment une belle histoire de rencontre qui est vraiment assez cool. Et puis bon, vous verrez qu'il y a peut-être quand même encore un peu de magie, même si c'est peut-être pas tout à fait une sorcière. Ou alors peut-être que si. Graphiquement, c'est un peu particulier. On est sur des personnages qui sont assez allongés, qui sont bien travaillés. Là, je pense, sans me tromper, dire que c'est du travail numérique. Et bah, ça se ressent un petit peu sur les couleurs, mais tout est bien appliqué. Il y a une certaine dynamisme qui est, un certain dynamisme qui est mis en place, qui est vraiment efficace. Et ça passe très bien, il n'y a pas à se poser de questions, on reconnaît bien les personnages, ils sont à la fois attachants, ils ont une personnalité physique qui fonctionne bien, et c'est vraiment un bel album, une belle surprise. Donc bah, n'hésitez pas, hein. Moi je vous avoue que c'est vraiment un bon plaisir, et bah, faut pas bouder son plaisir. C'est vraiment super cool. Je vous redonne les références. Il s'agit de Snapdragon, c'est de Catley et c'est aux éditions Kinaï. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale. Alors j'ai décidé de faire un truc qui fait un peu de bruit. Si vous avez des voisins, bah, pff, tant pis, mettez le son à fond, hein, c'est vraiment trop bien. Et puis n'hésitez pas à sauter sur place, je pense que c'est de la musique qui est faite pour ça. Il s'agit d'Eskimo Callboy avec We Got The Moves. Maintenant. FM. de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb. Vous venez d'écouter les très énervés Eskimo Callboy avec We Got The Moves. Si vous avez l'occasion après l'émission, n'hésitez pas à aller jeter un œil à leur clip. C'est complètement dément, c'est complètement insane, mais c'est tellement drôle et que j'adore ça. Donc j'espère que vous avez bien sauté dans votre chez vous sur cette petite musique un petit peu frappadingue. On va retourner au pays du 9e art, au pays de la bande dessinée, avec cette fois-ci une interview, puisque j'ai eu la chance de rencontrer un charmant monsieur qui s'appelle Benoît Vieillard et qui nous a régalé avec un album qui s'appelle Selma. C'est un album qui est disponible dans la collection Soleil Pop et ça parle d'écologie. Je vais vous laisser écouter son interview, je vais parler de la bande dessinée juste après. Et je vous avais dit qu'il y aurait des surprises. Vous allez voir, vous allez avoir une petite motivation pour venir vous connecter sur les réseaux sociaux, sur la case de Seb sur Facebook et la case de Seb sur Instagram. Donc je vous laisse avec Benoît qui va nous parler de son album et un petit peu de qui il est. On se retrouve juste après. Bonsoir Benoît, bienvenue dans la case de Seb. Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors donc je m'appelle Benoît Vieillard, donc ça fait quand même quelques années que je fais de la bande dessinée, mais mon parcours est un peu particulier parce que j'ai pas fait une formation en BD, on va dire. Donc j'ai plus fait une formation en design design graphique industriel, voilà. Donc en fait suite à cette formation j'ai travaillé dans le design, j'ai travaillé dans une boîte qui faisait du jouet, après j'ai travaillé en agence de com pendant quelques années en tant que directeur artistique, et puis en parallèle de tout ça j'ai fait de la BD mais d'une façon assez étalée, on va dire, parce que je sortais un livre tous les 2-3 ans, des fois même voire 5 ans. Donc voilà, j'étais quand même productif d'une façon régulière, mais pas autant qu'un auteur de BD qui fait que ça, quoi. Voilà.
Comment en es-tu venu à la bande dessinée ?
Alors oui, c'est vrai que j'ai toujours voulu faire ça. Tout petit en fait, j'adorais dessiner et surtout j'ai commencé à copier en fait les personnages de bande dessinée que j'appréciais, notamment Spirou, Gaston Lagaffe. Alors plutôt de la BD franco-belge. Voilà, j'ai appris comme ça. Et puis au moment de arriver au bac, au moment de savoir qu'est-ce que j'allais faire plus tard, moi je voulais faire une école d'art. Sauf que j'étais dans un milieu où mon père était ingénieur et c'était pas évident de faire comprendre que moi je voulais faire un truc artistique. Et il a fallu trouver un compromis. Mon papa voulait quand même financer des études, mais que ça soit utile. Et donc pour lui le côté artistique c'était pas forcément utile. Alors donc le résultat, j'ai trouvé un compromis. C'est pour ça que j'ai fait des études de design. Alors au départ j'avais pensé architecte, mais finalement le design me plaisait bien et lui ça l'a rassuré du fait qu'il y avait un côté technique et puis pour moi il y avait le côté artistique qui me plaisait bien, donc voilà.
Est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière sur ta carrière ?
Réellement une carrière de BD, je ne sais pas, mais par contre effectivement moi comme j'ai toujours voulu faire ça et que dès le début de ma carrière de designer, on va dire, j'ai essayé de développer mon envie de faire de la bande dessinée. Donc ma carrière c'était plutôt une envie personnelle de développer des univers, sauf que effectivement je me suis aussi trouvé face à le monde de l'édition, qui était pas non plus qui avait aussi les éditeurs ont aussi des envies, une volonté de vouloir éditer des sujets précis. Donc en fait je me suis plutôt au début j'ai essayé de m'adapter aussi aux demandes éditoriales. Et donc en fait moi j'ai essayé de, je suis un touche à tout au niveau de la BD, parce que j'ai commencé par de la rock fantasy il y a quelques années chez Soleil. Après j'ai voulu faire du gag, de l'humour, pour au final après faire du au final pour à un moment donné partir vers plus du polar. Donc j'ai essayé de toucher à tout, bien que moi mon style en fait graphique, là je vous parle de des thèmes, mais par contre au niveau du style graphique j'ai quand même un style plutôt humoristique, plutôt franco-belge, hein, mais effectivement au niveau de mes sujets je suis assez éclectique, hein, parce que j'ai essayé de varier les plaisirs. Et ça va continuer. Par exemple, j'ai jamais touché à la science-fiction, mais par contre, j'aimerais bien essayer de me lancer là-dedans, quoi. Voilà.
Bon, une expérimentation sur les thèmes, on l'aura compris, mais aussi un coup de l'expérimentation sur la forme, n'est-ce pas ?
Alors ça, c'est Ça, c'est un petit peu la, du fait que j'ai une formation de graphiste, de designer. C'est essayer de développer des nouveaux concepts, des nouvelles idées de façon de lire. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Et donc, après, je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai essayé de faire une série qui s'appelle 13 Devil Street, qui va dans cette fibre-là, en remaniant un petit peu en repoussant un petit peu la façon de lire un livre d'une façon normale. Moi, j'essaye de forcer le lecteur à réfléchir à ce qu'il découvre dans le livre et à essayer de le parce qu'un livre, c'est un objet avant tout, donc ça se manipule. C'est pas forcément pourquoi un livre se lirait de la gauche vers la droite. Pourquoi on ne lirait pas, alors effectivement il y a les mangas, mais pourquoi on ne serait pas obligé de retourner en arrière pour redécouvrir des choses? Et en fait, j'aime bien le livre qui a plusieurs sens de lecture et plusieurs approches de vision en fait par rapport à la narration, quoi. J'ai voulu faire un livre pièce de théâtre, contrairement en général aux livres qui sont plutôt souvent on compare la BD un petit peu au cinéma par rapport à la narration, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire, donc on fait des plans, il y a une succession de plans et ce qui peut se rapprocher du cinéma. Moi, j'ai un petit peu remis en cause tout ça en me disant mais pourquoi on ferait pas une pièce de théâtre livre. Donc c'est un peu mon livre en fait. 13 Evil Street, c'est un peu comme une maison de poupée. On a la façade de l'immeuble en couverture et à l'intérieur, on a les cases. On peut croire que c'est des cases classiques d'une bande dessinée, mais en fait, chaque case correspond à une pièce et une bande de BD. En fait, une bande, quand je dis une bande, c'est un strip qui fait toute la largeur du livre, en fait, de la double page. C'est un étage. Donc, en fait, on voit d'une façon simultanée l'ensemble des pièces. Et donc, ça crée comme une scène de théâtre, en fait, à étage, hein. Pas juste une scène, une planche. C'est à quatre niveaux, quoi. Vous avez des personnages qui se déplacent dans cet espace-là. Et donc, en fait, d'où l'épaisseur du livre, parce que il faut imaginer qu'une double page, c'est un instant T. Le temps est figé. Et donc, pour voir avancer l'histoire et l'aventure, il faut tourner les pages. C'est un peu comme un dessin animé, si vous voulez. En dessin animé, on fait d'abord le fond, on fait d'abord le décor, et après les personnages viennent se greffer dessus. Et là, c'est le principe, quoi.
Au niveau méthode de travail, comment fonctionnes-tu ? Plutôt numérique ou traditionnel ?
Alors, un peu des deux. Moi, j'aime bien le dessin fait main. Ben, fait main. Bon, même maintenant, on dessine tablette, c'est quand même fait main, parce que c'est quand même. Mais quand je dis fait main, c'est plutôt sur le papier, parce qu'en fait, du fait d'être designer et d'être graphiste, je suis quand même avant tout graphiste et designer. Je bosse beaucoup sur écran. Donc le dessin, la BD me permet de sortir un peu de l'écran et me mettre sur ma table à dessin et partir sur quelque chose de plus traditionnel. J'aime bien sentir le papier, le grain du papier. Mais après, alors moi, c'est je fais les bases en dessin papier et après je scanne tout ça et la couleur par contre est faite sur ordinateur en fait.
Tu viens de sortir Selma dans la collection Soleil Pop. Est-ce que tu peux nous dire comment ce projet est né ?
Alors, cette BD est née, c'était en fait une envie personnelle d'essayer de trouver un axe sur l'environnement, parce que forcément là, le sujet de l'environnement, et là on en parle, et je pense que on va pas s'arrêter d'en parler, parce que ça fait partie maintenant de notre vie, hein, il faut penser à l'environnement. Mais je voulais un axe un peu décalé, parce que effectivement, actuellement on est souvent à nous rabâcher les oreilles qu'il faut protéger la planète, et ça c'est sûr, c'est certain, il faut le faire, et on tout doucement on commence, mais effectivement il y a une certaine urgence, mais il y a ce côté anxiogène qui les gens comprennent qu'il faut changer les choses, il faut que les choses bougent, mais pourquoi partir sur un axe trop angoissant, on va dire. Et moi, j'ai voulu partir sur quelque chose d'un peu décalé. Donc, en fait, sur fond sérieux, j'ai essayé de montrer que l'environnement, ça peut se faire d'une façon aussi distrayante, et avoir un plaisir à changer le monde en essayant de faire ça d'une façon plaisante, hein, que ça soit pas non plus une que ça soit pas rébarbatif à changer le monde, que qu'il faut qu'on on a notre intérêt, mais l'intérêt peut se faire d'une façon plaisante, et que le monde va bouger comme ça aussi. Voilà.
Est-ce que c'est compliqué de trouver un axe original quand plusieurs albums sur le même thème sortent en même temps ?
En fait, moi, j'ai pas non plus, je suis pas non plus à regarder ce que font les ce qui sort en fait. Bon, j'ai vu qu'il y avait des choses qui sortaient. Moi, ce que j'ai voulu faire, et comme je suis issu un peu du gag aussi, hein, parce que j'ai quand même l'expérience de l'humour, donc j'ai fait comment je percevais en tant que citoyen, comment je percevais cette problématique d'environnement, et j'ai essayé de à ma manière de, en fait cette approche là ça me permettait aussi de poser plein de questions sur l'environnement et me dire en tant que citoyen en fait j'ai pas les réponses, et c'est que cette approche là c'est par l'humour en fait on peut faire sortir plein de choses, et on peut aussi montrer aussi les contradictions qu'on peut avoir. Parce que les citoyens sont partagés. Est-ce que c'est bien de prendre une voiture électrique ? Est-ce que c'est bien de mettre des panneaux solaires sur son toit ? C'est ça pose plein de questions, parce qu'il y a pas, c'est pas forcément les meilleures solutions. Donc moi, je peux très bien dans un gag dire c'est bien d'avoir une voiture électrique, et puis dans notre gag montrer que c'est pas forcément bien. Donc avoir les deux axes. Les deux points de vue. Au départ, moi, mon idée de faire une BD sur l'environnement, je voulais quelque chose de très large qui parle de tous les domaines de l'environnement. C'est-à-dire que je voulais parler des animaux en voie de disparition dus aux problèmes climatiques. Je voulais parler aussi des énergies. Je voulais parler de la malbouffe aussi, de la façon comment on gère les plantations, tout ça. Et puis à un moment donné, dans tout ce petit univers, il y avait cette fille Greta Thunberg qui était là, qui essayait de faire bouger les choses. Et donc j'avais mis 2-3 gags là-dessus. Et puis finalement, en discutant avec l'éditeur, on est parti quand même plus sur cette petite famille, cette petite demoiselle en fait qui essaye de faire bouger les choses. Et donc voilà, Selma, effectivement, on peut dire que ça peut être la petite sœur de Greta Thunberg qui essaye de faire bouger le monde.
Et est-ce qu'il faut faire des compromis sur une bande dessinée comme ça?
Ouais, alors effectivement le problème c'est que moi je voulais faire quelque chose de beaucoup plus condensé sur plein de comme je vous disais, sur plein d'univers, plein de personnages, et varier les l'équipe en fait, qu'on ait une team dans l'environnement. Et après il a fallu rebondir, parce que effectivement l'éditeur souhaitait plus un côté familial. Donc j'ai quand même réussi à rebondir, parce que les animaux on en parle quand même, on parle aussi de on voyage aussi un peu. Donc résultat voilà, j'ai trouvé des compromis. Alors il faut que j'en parle des compromis. Non. Bah notamment la petite fille en fait, je me suis dit comme c'est une enfant qui aime jouer aussi, parce qu'il faut aussi se mettre à la place d'une demoiselle. Bah quand je dis demoiselle, elle a moins de 10 ans cette petite, hein, c'est pas une Greta quand même, hein. Greta maintenant elle a 20 ans, mais elle est restée quand même enfant, et résultat moi, je me suis dit bah c'est quand même une petite fille qui veut changer le monde, mais elle a quand même aussi des envies, c'est jouer, hein. Et donc elle a des peluches, et donc je me suis dit bah les peluches en fait vont lui parler, elle est très imaginative. Et donc elle échange avec ses peluches, et donc à ses yeux elle s'anime, ses peluches. Donc elle a un ours polaire en peluche, et qui devient aussi un des personnages de l'histoire, qui lui donne des conseils, qui l'accompagne même quand elle va à l'école, elle l'accompagne, enfin bref, ça devient quelque chose de vivant, quoi. Et ça donne une richesse à ce personnage là du charisme, et en même temps ça permet aussi de sensibiliser le lecteur au mal-être animal, notamment pour les animaux qui sont en voie de disparition.
Pour conclure, comment convaincrais-tu nos auditeurs de découvrir ta bande dessinée?
Je pense que tout le monde devrait la prendre, parce que c'est quand même c'est de l'environnement, donc ça concerne tout le monde. Donc effectivement, si vous en avez marre qu'on vous rabâche les oreilles avec l'environnement d'une façon anxiogène, d'une façon un peu on nous pointe du doigt en disant c'est mal ce qu'on fait, qu'il faut changer la planète, lisez Selma, parce que ça va vous permettre de voir une certaine découvrir l'environnement d'une façon plus légère, et en espérant que ça vous fasse changer un petit peu nos habitudes. En tout cas, moi, j'essaye de mon côté, même en tant que citoyen, je fais mal les choses aussi. Hein. J'essaye de modifier à mon niveau, hein, à mon petit niveau, hein, faire des choses jour après jour. Mieux pour l'environnement et d'une façon, voilà, faut pas que ça devienne pénible pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert mon livre. Vous allez découvrir l'environnement d'une façon plus plaisante. Voilà.
Merci Benoît. Merci Benoît pour cette interview assez riche. Alors comment vous parlez de Selma après tout le bien que Benoît a dit de son album ? Bon, en étant aussi objectif, parce qu'effectivement en tant qu'auteur, on n'est pas objectif sur son propre travail. Enfin, je pense que j'ai du mal à le croire qu'on puisse l'être. Il faut savoir que cet album est dans une collection qui vient de démarrer, une collection plutôt humour pop. Et du coup, c'est à mon sens le seul album en fait qui parle d'un sujet un peu plus grave. Il y a un album qui va parler des chiens. Il y a un album qui parle de la culture pop des années 80-90. Je les ai pas tous retenus, mais du coup c'est le seul qui a un sujet, on va dire, un petit peu tendu. Et Benoît arrive à faire quelque chose d'assez souple, sans tomber dans le gravissime, en faisant des gags, tout en gardant une espèce de petite pointe d'acidité qui est assez efficace. Comme il le disait, il essaie de pointer nos contradictions. Il dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il montre que parfois c'est un petit peu plus compliqué que ça et que essayer de bien faire, c'est pas toujours simple. Graphiquement, il a réussi à faire un truc qui est assez cool avec pas mal de, c'est pas des ombres, c'est des éclairages, donc on est sur des couleurs qui sont pas complètement appliquées sur un truc, ce qui fait que ça donne toujours l'impression qu'il y a une espèce de lumière sur les personnages, un petit peu comme s'ils étaient sur une scène de théâtre avec la lumière qui vient les mettre en valeur. Et il se permet certaines expérimentations graphiques comme il aime ça. Et ça permet d'avoir des pages qui sont plutôt fun, avec des gags qui vont se délayer sur plusieurs pages ou des axes de lecture qui vont être un petit peu perturbés, ce qui rend les choses d'autant plus dynamiques, d'autant plus fun qu'on manipule un objet tout en le lisant. Selma, c'est super cool, à tel point que avec Benoît, on a décidé de vous faire gagner l'album dédicacé. Donc on s'est dit que simplement vous dire de liker la page Facebook et la page Instagram, c'était beaucoup trop facile. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire travailler. Vous allez retrouver dès la fin de l'émission une petite publication, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, vous demandant de dessiner une planète. La planète telle que vous la voyez actuellement, avec toute sa pollution et toutes ses contradictions qu'on a pu mettre dedans. On va vous laisser jusqu'à dimanche 26 pour publier vos dessins et je laisserai à Benoît le choix de choisir, enfin l'honneur, on va dire, de choisir le dessin qui l'aura plus séduit et qui aura la possibilité de gagner cette BD dédicacée. Donc voilà, faites vos dessins. On n'a pas de limite d'âge. Bon, c'est un album qui est plutôt jeunesse, hein, je vous le cache pas. Mais faites-vous plaisir, montrez-nous cette planète. Je dirais, on ne s'est pas posé de limitation. Si vous voulez faire du collage, faites du collage. Si vous voulez faire des photos, pourquoi pas. Mettez quand même un petit peu de dessin, parce que ça reste quand même une émission sur la bande dessinée. Mais voilà, faites-vous plaisir et essayez de gagner cette bande dessinée. N'hésitez pas à partager autour de vous ce concours, parce que plus il y aura de personnes à participer, plus ce sera fun. Et surtout, abonnez-vous à toutes les pages, que ce soit celle de Benoît, que ce soit la mienne, de la Case de Seb, ou la page Instagram, ou même la page des éditions Soleil. On va se refaire une pause musicale avant d'enchaîner sur la suite de l'émission. On va se faire une petite pause avec Metric, Now or Never Now.
101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. J'espère que vous passez toujours un bon moment en ma compagnie. On va partir un petit peu, du côté des États-Unis avec un petit peu de comics. Et là, j'ai décidé de vous parler d'un Batman qui m'a pas mal plu. Un Batman un peu différent, un Batman qui a décidé de reprendre les codes de Batman de manière ultra réaliste. Il s'agit de The Batman's Grave aux éditions Urban Comics sur un scénario de Warren Ellis et sur un dessin de Brian Hitch. Comment dire ? En fait, Batman va découvrir une espèce de relation entre l'assassinat d'un inspecteur et d'autres piste, celui d'un avocat véreux, et il va se mettre complètement à fond dans cette enquête, une enquête qui va le bouffer, qui va l'emmener au-delà de ses limites. Et pourtant on sait que Bruce Wayne, lorsqu'il est en Caped Crusader, eh ben, il est capable en fait d'aller déjà très très loin. Et on a ce scénario qui nous emmène, qui nous complète, qui nous attire, mais qui nous captive un petit peu comme cette enquête que va tenter de résoudre Bruce Wayne. Batman, pardon. Je suis désolé pour le spoil, hein, ceux qui ne savaient pas. Et on est au moins autant que lui épuisé, tellement le récit nous emmène et tellement on est captif, encore une fois je le lis, de ce récit qui nous impose de rester aux aguets, de ne pas lâcher le bouquin avant de l'avoir fini. Et c'est un bouquin qui est quand même assez conséquent en termes de taille. Et ce qui fait que on est dedans, on est à bout de souffle et on ressent presque la fatigue de Batman au fur et à mesure qu'il progresse dans son enquête au fil des 300 pages, des 300 et quelques pages de l'album. Et on découvre un nouveau méchant, Scorn, dont on ne sait que peu de choses, dont on saura assez peu de choses au fur et à mesure. Et cet ouvrage vraiment est assez fascinant parce qu'on a un Batman jusqu'au boutiste, mais dans ce qui va puiser dans ses propres ressources plutôt que d'être extrême dans ses façons d'utiliser, toujours avec son code d'honneur, attention. Mais c'est sans compter sur Alfred qui va à chaque fois lui dire: vous devriez prendre un repas, vous devriez penser à vous reposer, mais à votre avis, est-ce que Bruce Wayne il va écouter ça? Est-ce que Bruce Wayne il va aussi écouter Gordon qui essaie de comprendre un petit peu et qui une fois ou deux lui fait un petit tacle bien senti, sauf que le justicier n'en a que faire. Mais vraiment un scénario captivant, un scénario vraiment assez fabuleux. Graphiquement, c'est quelque chose d'assez anguleux, quelque chose d'assez travaillé. C'est du comics, bien entendu. Et on a un jeu sur le clair-obscur qui fonctionne vraiment efficacement. On a un Batman qui est toujours dans l'ombre, qui est toujours drapé de noir, même lors des gros éclairages, avec des ombres très fortes, notamment sur son masque. Et puis, c'est un comics qui n'est pas dénué d'action. Il y a beaucoup de scènes d'action qui sont très dynamiques, très lisibles. Il n'y a pas beaucoup de temps mort. On peut avoir plusieurs pages en fait avec un enchaînement qui peut faire penser un petit peu au Batman qui avait été fait sur console, avec ses combats, ses combos qui devaient s'enchaîner pour pouvoir arriver à battre des hordes d'ennemis. Et ça nous met dans la même tension et la même envie d'être complètement capturé par ce récit, et qui nous fatigue au final. Donc un récit qui travaille à la fois le fond, la forme, l'histoire, jusqu'à une conclusion que je vous laisserai découvrir, une conclusion parfaitement inattendue qui est vraiment 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 top, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. C'est un beau bijou, ça. N'hésitez pas à y aller. Je vous redonne les références. Il s'agit de The Batman's Grave de Warren Ellis et Brian Hitch. Et c'est publié, je sais plus parler, aux éditions Urban Comics dans la collection Black Label. Qu'est-ce que je fais ? Je vais vous mettre une nouvelle pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Je mettrai peut-être un peu plus courte. On va se faire une pause avec Of Monster and Men, Wolf Without Teeth. Je suis désolé pour mon anglais. Bon, après, ceux qui écoutent l'émission depuis un certain temps savent que l'anglais, c'est pas mon fort, malgré une bonne volonté. On se retrouve dans quelques instants.
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes encore avec Seb sur le 101.5 de Radio G. On va aborder la toute dernière partie de l'émission, la partie qui sera consacrée au manga et peut-être un petit peu d'autres choses. Je ne sais pas comment je vais le goupiller. On va partir du coup quand même au Japon avec Kaguya-sama Love is War de Aka Akasaka chez Pika Edition. C'est un album qui est sorti, qui n'est pas tout récent hein, de mémoire, mais qui m'a plutôt plu pour une raison assez rigolote. On est sur un manga de romance, mais un manga de romance complètement foutraque, puisque ça nous met en place deux personnages, deux élèves d'une école d'élite qui sont simplement trop intelligents pour arriver à comprendre les sentiments des autres. Nous avons Kaguya qui est la vice-présidente de la prestigieuse académie des élèves et qui est issue d'une famille plutôt riche et qui est plutôt aisée, que ce soit dans son éducation ou dans ses finances. Et puis nous avons Miyuki Shirogane qui lui est le président et qui lui en fait est un tâcheron complètement dingue. Lui il n'est pas issu d'une famille aisée et il a juste réussi à atteindre dans cette école un niveau parce que justement il a travaillé et encore travaillé sans relâche pour arriver au niveau où il en est. Et il faut savoir que ces deux-là sont amoureux l'un de l'autre. Il y a une rumeur qui le dit, mais jamais ils ne le se sont déclarés. Pourquoi ? Simplement parce que ce serait admettre une défaite que de se déclarer en premier à l'autre. Donc, ils vont s'adonner à une sorte de jeu implicite, à savoir tout tenter pour que l'autre déclare sa flamme en premier. Alors ça peut paraître idiot comme ça, mais imaginez que simplement inviter l'autre au cinéma ou se faire inviter au cinéma sans que ça ait l'air d'une invitation, eh ben ça devient complètement dingue. C'est des chapitres entiers de manigances, de magouilles, de je te planque les places dans une pile de copies ou je te planque les places je sais pas quoi en disant tiens je pense qu'il va faire ci, je pense qu'il va faire ça. Donc on a une vraie partie d'échec sentimental avec des situations complètement grotesques pour le commun des mortels. Au pire, je suis désolé, ceux qui sont un petit peu malhabiles au sentiment, déclare ta flamme, au pire tu te prends un râteau, mais au moins t'es fixé. Et ben là, ils savent pas faire ça du tout. Ce qui rend le truc complètement drôle, alors que ça en est complètement grotesque à la base. Graphiquement, on est sur quelque chose d'assez frais, c'est assez frais mais classique. On est sur un dessin un petit peu pointu, un peu shoujo, qui fonctionne plutôt bien. C'est pas hyper détaillé, mais ça marche très très bien. Il n'y a pas beaucoup de décors, mais on se focalise sur certains axes de caméra qui vont, certains cadrages, pardon, plutôt que des axes de caméra, qui vont essayer de mettre en avant les choses machiavéliques qui sont mises en place. Donc on a des trucs qui sont quand même bien dynamiques et qui fonctionnent super bien. C'est hyper drôle, j'ai vraiment adoré, alors qu'au départ je me suis dit mince, qu'est-ce que c'est que cet ovni, je pensais pas que j'accrocherais autant et c'est vraiment vraiment fun. N'hésitez pas, il doit y avoir plusieurs tomes maintenant, j'avoue que j'ai pas osé regarder, il y a peut-être même une série d'animation mais j'ai pas cherché non plus, donc je suis désolé si c'était quelque chose que vous attendiez. Kaguya-sama Love is War d'Aka Akasaka, c'est aux éditions Pika et c'est vraiment super bien. On va passer à un truc beaucoup moins drôle, un truc qui résonne aussi un petit peu avec l'actualité. Bon, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire des attentats du 11 septembre, la commémoration que tout le monde a un petit peu fait. Et il y a un manga qui est sorti aux éditions Delcourt Tonkam sur un scénario d'Aoi Sei et des illustrations d'Anajiro. Ça s'appelle Survivors Club. De quoi ça parle en fait ? Ça parle d'une classe qui va vivre un attentat. Un des élèves absentéistes va faire exploser une bombe lors d'un devoir, tuant quasiment tous les élèves sauf 7. Et 3 ans plus tard, en fait, les 7 survivants se retrouvent dans une pièce de l'école pour se rappeler un petit peu de ce qui a pu arriver. On se rend compte qu'ils ont tous été mutilés. Ils ont tous une prothèse, tous des séquelles assez graves physiquement. On imagine que les séquelles sont aussi assez profondes mentalement. Et l'un des élèves qui a invité ses camarades à venir commémorer cet attentat, se rappeler et se retrouver, va les surprendre en leur disant que l'un d'entre eux aurait fourni les éléments permettant de réaliser cet attentat. Bon, on se dirait, tiens, huis clos avec des accusations, pourquoi pas, mais ça va pas tenir en haleine très longtemps. Ben si, puisque en parallèle, on se rend compte qu'il y a peut-être eu d'autres attentats du même type, dont un qui va se dérouler complètement en parallèle de l'enquête en cours, en huis clos, puisqu'une jeune fille va prendre en otage et jouer de manière très malsaine avec ses camarades sous prétexte de les trucider avec une bombe. Donc on se dit très facilement que la personne qui est dans cette pièce et qui aurait été responsable de du premier attentat de cette classe est peut-être aussi la personne responsable et aurait fourni les éléments à cette autre prise d'otage qui se déroule en parallèle. Donc une chasse aux sorcières, un huis clos assez assez prenant et assez angoissant, surtout vis-à-vis des événements qu'on a pu avoir récemment. C'est très passionnant, c'est vraiment très prenant, c'est super. J'ai vraiment accroché, c'est assez violent, mais c'est assez violent et assez gore. Graphiquement, on est sur un trait qui est plutôt lisse, qui je pense peut-être avoir été fait en numérique. J'ai toujours du mal, hein, je vous le disais. Mais on a des personnages qui sont pas caricaturaux, qui vont être caricaturaux dans leurs usages, dans leur façon d'être, mais qui sont assez humains au final et qui sont très proches de personnages qu'on peut avoir sans forcément tomber dans les excès. Et c'est un peu gore, hein, parce que on nous épargne rien, on vit visuellement les explosions des gens et c'est assez atroce. Mais bon, malheureusement, parfois il faut aussi savoir choquer un petit peu son public pour les faire réagir. Et ça, les Japonais le font plutôt bien. Donc, un truc palpitant, Survivors Club de chez Delcourt Tonkam, scénario d'Aoi Sei et illustration d'Anajiro. Vraiment, allez-y. C'est vraiment un bon moment à passer et c'est plutôt cool. Enfin, bon moment, c'est une façon de parler. Hein. Pour finir, on va passer avec un peu plus de légèreté avec Super Nintendo Bros. On va le brosser assez rapidement puisqu'on a déjà parlé du premier tome il y a de ça un petit moment. C'est de Pirates Sourcils, les deux Nikoneda. C'est publié aux éditions Jungle. Le concept est assez simple. Ça va être de martyriser toute la bande de Nintendo, toute la team Super Mario, et de passer à la moulinette la culture pop qu'on peut connaître et la culture jeux vidéo. Pourquoi je dis un petit peu trash, c'est parce que y a du sang, il y a du sexe, il y a des gags sous la ceinture, il y a des gags, je vais pas dire du gag pas drôle parce que c'est pas du gag pas drôle, mais c'est du gag tellement absurde que si on n'est pas sur la bonne longueur d'onde, ça va pas nous faire marrer, et que si on le relit dans le bon état d'esprit, on va pas arrêter de rigoler. Moi j'avoue que je suis marré quasiment de bout en bout. Graphiquement c'est complètement barré. On a des personnages qui sont caricaturaux, c'est un peu le but de la parodie et ça marche très très bien. On sent que Nikoneda et Pirates Sourcils, ils ont joué aux jeux vidéo, que c'est des fans de jeux vidéo et que ils ont compris quelle était l'absurdité de ces jeux vidéo, l'absurdité des codes aussi du jeu vidéo. Et il y a quelques petites victimes sur lesquelles on va s'acharner, même si des victimes qui ont certains petits handicaps. Voilà, je vous redonne les références. C'est Super Nintendo Bros, le tome 2, c'est de Pirates Sourcils, Lenny Koneda. C'est aux éditions Jungle. Je pense qu'ils peuvent nous en faire 10 sans problème, tellement il y a matière à se poiler. That's all, folks. Vous l'avez entendu, c'est pour qui signale la fin de l'émission. Je vous laisse dans quelques instants avec le gros bazar. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver le podcast sur www.radio-gdlafindelemission. Je vous invite à liker la page Facebook et la page Instagram. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver aussi le fameux concours de dessin pour gagner un tome dédicacé de Selma par Benoît Vieillard. Je vous rappelle que je fais aussi un Book of the Day sur Instagram et Facebook tous les jours, sauf le lundi et le dimanche, parce qu'il faut bien que je me repose un petit peu. Et puis, si vous aimez entendre ma voix, mais si vous avez aussi envie de découvrir d'autres choses, vous pourrez me retrouver dès demain de 22h à 23h pour une nouvelle émission consacrée entièrement à une autre de mes passions, le jeu de rôle. C'est une émission qui s'appelle Les Voix du Scénarium, qui va vous présenter l'actu du jeu de rôle, mais aussi une partie en live pour faire un petit peu honneur au feuilleton radiophonique. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous donne rendez-vous demain à 22h pour découvrir cette nouvelle émission. Et puis, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi. And I should have closed my eyes. I should have closed my eyes. But it was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark. www.radio-g.fr www.radio-g.fr